Vous écoutez
RMC. RMC, Intégral Foot.
Christophe Cessieux.
L'Intégral Foot qui se poursuit sur RMC après un début d'après-midi complètement dingue. Vous l'avez vécu avec nous, ce match notamment entre Nantes et Bordeaux sur lequel on reviendra tout à l'heure. La victoire 5-3 des Canaries face aux Girondins de Bordeaux qui se dirigent vers la Ligue 2, tout comme Metz. On y reviendra dans quelques instants avec Roland Courbis qui m'accompagne comme tous les dimanches après-midi. Salut Roland.
Salut les amis et salut à tous.
Tout va bien, tes tickets sont bons pour l'instant?
On a eu chaud avec Nice.
Ah oui, bon, on a eu très chaud, oui, c'est moi qu'on puisse dire. Hein. Nice qui a ouvert le score et qui a décroché une victoire dans les dernières secondes face à 3. C'est donc parti, bah oui, ça ne traîne pas ce soir, ça va très vite. C'est donc parti entre Lille et Strasbourg. Timothée Mémont et Jean Baumel sont à Lille. Bonsoir les garçons.
Salut Christophe, salut coach, salut à tous.
Salut Christophe, salut coach, salut. Bonsoir à toutes et à tous.
Bon, ça vient de partir, tout va bien, il y a du monde, il y a la fête.
Tout va bien, ça siffle bien. Les supporters de Lille sifflent leurs propres joueurs, pas contents de la défaite lors du derby. On l'avait vécu ensemble.
Il y a une levée de boucliers des supporters.
C'est ce qu'on se disait, ça. Dans plein de clubs, c'est pas terrible. Hein.
À quel endroit les supporters sont contents?
Je peux te dire qu'à Lens, ils sont contents.
Ah voilà. Tu vois.
Mais ils ont pas pu aller au Parc des Princes hier soir.
À Nantes aussi a priori ils sont contents. Ce qui s'est passé
et
tout à l'heure.
Et grève des supporters donc même tribune en partie vide hein, des VE donc c'est le COP du LOSC sifflé à l'entrée des joueurs voilà donc ils ont vraiment marqué le coup le club qui a d'ailleurs préféré ne pas que les joueurs descendent du bus sur le parvis comme ça se fait traditionnellement. Le bus est arrivé dans les coursives pour ne pas côtoyer les supporters qui sont vraiment très en colère. D'ailleurs, il y a une banderole, hein. Vous avez écrit l'histoire donc la saison dernière, puis la honte, cassez-vous.
Et de l'autre côté du terrain, messieurs, de la fierté à la honte, bougez-vous. Voilà, le message est lancé pour les joueurs lillois avant cette rencontre face à Strasbourg. Et ils auront un gros morceau aujourd'hui. On va quand même vous donner la composition des équipes. Avec la compo du LOSC d'abord.
Alors pas de grande surprise, on rappelle hein, que c'est Ben Arfa, procédure de licenciement, hein, c'est en cours, donc il n'est plus là. C'est surtout les absences de Bamba, Diallo suspendu et Sheka qui sont blessés. Donc ça nous donne Léo Jardim dans le but en défense, Goodmanson. Le retour de Botman, ça va faire du bien à la défense lilloise. On va suivre l'action là de Bourac, la frappe et l'arrêt de Cels. Et ça repart pour Strasbourg. La compo donc en défense, Goodmanson, Botman, Font, Celik. Au milieu, Renato Sanchez, Benjamin André. Et donc sur les côtés devant, Weah à droite.
Messieurs, je vous coupe parce qu'il y a un autre match en simultané, la demi-finale aller des Ligues des Champions entre Lyon et le PSG qui vient de débuter. Il y a 5 minutes et déjà un premier but. Edouard G est en direct avec nous. Salut Edouard.
Salut Christophe, bonjour à tous. C'est un but parisien ici. Salut coach. Un but parisien, 0 donc. Ce but de Katoto sur un exploit personnel sur une balle au départ un petit peu cafouillée par la défense lyonnaise. Et puis derrière, c'est Dabritz qui est allé la récupérer. Et puis elle a lancé l'attaquante parisienne dans la surface de réparation qui, au prix d'un exploit personnel, elle a carrément fait le tour de Wendy Renard du gauche. Elle est allée tromper son ancienne gardienne.
Qui a oublié de boucher l'angle.
Exactement, a oublié de boucher son premier poteau. Et donc ça fait 1-0 alors que le but est en train d'être checké par la VAR. Je vois pas trop ce qui peut éviter l'ouverture du score parisienne, mais en tout cas pour l'instant, au tableau d'affichage, il y a 1-0. Mais au niveau du trio arbitral, on est en train de valider ou pas cette ouverture du score parisienne, alors que nous en sommes à la 7e minute, alors que les 7 premières minutes étaient totalement lyonnaises dans le jeu. Mais voilà, la première incursion parisienne pour l'instant a fait mouche. Le but est toujours en inspection, messieurs.
Oui, je ne sais pas pourquoi.
Mais en tout cas, pour moi, le but est totalement valable. En tout cas, 1-0 pour Paris, 7 minutes 30 de jeu, ça va prendre du temps.
Ouais, bon, on revient vers toi, tu nous confirmes ça dans un instant, Edouard. À tout de suite. Donc, a priori, 1-0 donc, pour le PSG. On rappelle qu'il s'agit là des demi-finales aller de la Ligue des Champions.
Confirmé.
Ouais, c'est confirmé. Très bien. Donc, 1-0 pour le PSG. Lille-Strasbourg, rapidement.
On va redonner la compo, hein, les compos rapidement pour Lille. Donc, Léo Jardim dans la cage avec en défense de gauche à droite Goodmanson, Botman, Font, Celik. Au milieu, Renato Sanchez, Benjamin André. Sur les côtés, Weah à droite, Zegrova à gauche et Burak Yılmaz avec Jonathan David.
Et puis la composition du Racing Club de Strasbourg, 4 minutes de jeu, 0-0 avec dans la cage Matzels, une défense à 3, Djikou, Niamzi, Perrin. Sur le côté droit, Cassis. Sur le côté gauche, Gilbert. À la récupération, Persic et Bellegarde. Adrien Thomasson en soutien de Kevin Gamero et de Ludovic Ajor, que je le disais, 4 minutes 30 de jeu. Les Lillois qui sont déjà procurés une bonne situation avec un Bouak Yılmaz qui a tenté sa chance dans un angle très fermé et qui a poussé Matzels à une bonne parade. Les Strasbourgeois se sont projetés dans la surface lilloise, mais le centre n'a rien donné. Ballon dans le milieu de terrain avec cette balle pour Renato Sanchez, obligé de revenir en retrait vers José Fonte. 0-0.
Très bien, on va parier sur cette rencontre avant qu'il y ait un premier but, hein, parce qu'autrement ça changerait tout et Yohan Guillet serait obligé de revoir ses cotes.
Et il serait peut-être là le premier but.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec cette balle à l'entrée de la surface de réparation, la possibilité pour Gudmundsen avec Timothy Weah qui avait voulu centrer le ballon qui a finalement été contré. On est revenu en retrait. Parole à Yohan Guillet.
Yohan Guillet, dépêche-toi.
Merci, messieurs. Je fais vite. 2,70 la victoire lilloise. 2,65 celle de Strasbourg. 2,95 le match nul. Je vous propose Strasbourg qui ne perd pas, les deux équipes qui marquent. C'est coté à 2,20.
Ah, il était bon. Hein.
Ah, il a été très bon. Bon, merci. Maintenant, vous pouvez marquer, les gars. Allez-y. Ne vous gênez plus.
Hein. Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Avant de nous installer un peu plus définitivement dans ces deux matchs, on rappelle demi-finale aller de la Ligue des Champions féminines. 1-0 pour le PSG en déplacement à Lyon et 0-0 pour l'instant entre Lille et Strasbourg. Rappel donc des scores, des matchs qui sont déroulés cet après-midi en Ligue 1 avec l'éclatant succès de Rennes aux dépens de son voisin breton Lorient. 5-0. Le match nul entre Clermont et Angers. 2-0 après que Angers ait quand même mené 2-0 sur la pelouse de Clermont. La défaite de Metz, nouvelle défaite et deux cartons rouges pour les Messins. Ils s'inclinent battu à la maison par Brest. L'incroyable victoire de Nantes, 5-3 face à Bordeaux. Bordeaux qui a mené quand même 2-0 dans ce match avant de voir les Nantais revenir et opérer un chassé-croisé incroyable. Et puis Nice. Nice qui s'est imposé dans le temps additionnel du match qu'il a opposé face à Troyes. Et du coup, bien, les Niçois restent dans le coup pour cette bataille pour l'Europe. Roland qui fait rage. Évidemment, oui. Rennes qui est remonté à la troisième place à 3 points de Marseille qui jouera ce soir. Monaco qui est quatrième avec le même nombre de points. Strasbourg, ben on va voir ce que ça donne. Et puis Nice est à 57 points. La bagarre va se dérouler jusqu'à la fin. Comme
oui,
ça,
mais hein. dans le haut et dans le bas.
Et dans le bas aussi, même si évidemment, très mauvaise opération pour Metz et Bordeaux,
Metz,
battus tous les deux.
Je pense qu'il ne faut plus les compter.
Voilà. Et puis, je pense que Timothée Mémont respire à nouveau parce que ce matin, il était complètement déprimé. Ça va mieux, Timothée ?
J'ai un peu décongestionné grâce au Nantais. Je confirme, il est un peu détendu là. Il n'y a quand même pas de quoi fanfaronner quand on a perdu la veille, comme on a perdu, comme la Saint-Etienne a perdu face à Monaco. En tout cas, ici, à Lille, puisque c'est de cela dont il est question, il y a 0-0 entre Lillois et Strasbourgeois en tame de match d'hommes, hein, avec premiers contacts importants.
Les Lillois ont quand même bien démarré cette partie avec cette occasion, tu l'as dit Timothée tout à l'heure, de la part de Bouak Yılmaz dès l'entrée de cette partie. Mais voilà, on sent qu'il y a une implication parce qu'il y a une grosse pression du public et ils doivent se racheter. Hein. Il n'y a eu que deux victoires en 2022 à domicile. Hein. C'est quand même pas beaucoup pour une équipe qui est championne de France. Donc il y a vraiment, voilà, ils ne veulent plus parler de classement. Ils l'ont dit dans la course de presse hier. On veut simplement éviter, gagner du côté de Lille et face à une équipe qui marche bien, hein, Strasbourg. D'ailleurs, Lille avait gagné à la Méno au match aller. Donc pour l'instant, ça tombe plutôt pas mal du côté lillois.
Je crois qu'ils sont à 22 points de moins que la saison dernière.
Oui,
à
c'est étonnant.
Ouais, incroyable.
Ouais, et quelques joueurs en moins aussi.
Ah, évidemment.
Bon, attention avec Bourak dans la surface de réparation. Il a le ballon, il centre. Le ballon qui est contré. Le premier corner de la partie en faveur du LOSC.
Remis en Bourak Yılmaz depuis le début de cette rencontre, particulièrement en vue l'international turc. C'est vrai qu'il a été moins bien ces derniers temps et on estime qu'il a retouché le ballon. Ce sera donc un 6 mètres rendu aux joueurs strasbourgeois. On peut enlever la musique qui fait peur pour la bonne et simple raison. Ah non, il y avait une position de hors-jeu. Position de hors-jeu signalée au départ à l'encontre de Bourak et Yılmaz. On en reste à 0-0 après 9
Bourak,
minutes.
Yılmaz hors-jeu.
On rappelle que c'est le joueur le plus hors jeu du championnat.
Ah, ben voilà. Très bien, messieurs, on repart à Lyon, le Groupama Stadium, sous le choc, évidemment. Déjà que ça s'est pas très bien passé hier, même s'il y a eu la victoire lyonnaise, mais enfin, il s'est passé quand même de drôles de choses dans ce stade. Lyon qui est donc mené par son grand rival parisien, Edouard, dès le début de ce match, avec un exploit personnel de Katoto qui a mystifié la défense lyonnaise tout à l'heure.
Oui, ben c'est la seule incursion. Toujours 1-0 donc pour les Parisiennes à la 13e minute. C'était à la 5e, donc c'est la seule incursion parisienne. Pour le reste, les Lyonnaises ont le ballon. Mais voilà, pour l'instant, c'est un petit peu trop timide et ça va repartir rencontre justement. Eh ben non, finalement, tout de suite le retour de Selma Bacha sur justement Katoto qui était dans le coup sur cette action avec Macario. Macario du côté de Lyon, ça part en contre. Macario pour la reprise derrière Dada Egerberg, mais la bonne présence de Dudek qui va pouvoir dégager. Eh ben c'est un petit peu comme ça depuis le début, c'est-à-dire des centres, que ce soit de la droite des Lee Carpenter ou de l'autre côté de Selma Bacha ou d'autres, et au final, eh bien que ce soit Dada Egerberg pour le moment ou Macario, on n'arrive pas à convertir tout cela en véritable tir important pour gêner la défense parisienne. Tout à l'heure on a eu un tir quand même de Amandine Henry, mais la gardienne parisienne a pu se saisir du ballon. 14 minutes de jeu donc, et Paris qui mène 1-0.
Les Parisiennes ne se sont pas battues encore jusqu'à présent depuis le début de
match. Non, a priori, ça va. Après tous les événements d'hier, et c'est une équipe pas en lambeaux, mais en tout cas au niveau mental, qui a laissé beaucoup d'influx dans les événements d'hier, mais non, pour mais l'instant qui
elles ne se sont pas battues dans le jeu, dans leur comportement, pas dans les faits divers.
J'ai une question, messieurs, pour Edouard. Est-ce qu'il y a des supporters parisiens sur cette rencontre?
Alors c'est une bonne question. Je sais pas.
Ça saute pas aux yeux en tout cas.
Non, c'est vrai. Alors il doit y avoir 23 000 personnes. Oui, il y a 23 000 personnes. Normalement, c'était un peu la jauge annoncée. Et pour l'instant, il n'y a pas de, on va dire, de parquage avec des supporters parisiens. Ah si, il y en a une poignée là-haut. Je dois avoir mes lunettes, mes jumelles même. si, ils sont là-haut. Ils sont là-haut. Une quinzaine. Ah, ils sont tout en haut.
Une quinzaine, d'accord.
Une quinzaine, voilà.
Bon, oui, parce qu'on sait que de temps en temps, il vaut mieux éviter qu'ils se croisent, hein, les supporters lyonnais et parisiens. Ce qui s'était passé à Charletti au cœur de l'hiver.
C'était plutôt pour savoir si les filles avaient des supporters, en tout cas si le sort réservé par les supporters parisiens aux filles était différent de celui des garçons. Parce que on les a vus pas tellement supportés lors du match d'hier, le match du titre.
Ouais. 18, je les ai comptés.
D'accord. Et les supporters lyonnais, il n'y a pas de problème avec leurs joueuses non plus, Edouard, parce que là, on ne sait plus en ce moment. Hein.
Non, on ne sait plus. Normalement, il n'y a pas de problème.
Normalement.
Écoute. Jusqu'à nouvel ordre. Il y a un corner ici.
Alors là, s'il y en a encore cet après-midi,
les corners
en faveur
des Strasbourgeois. Carrément.
Le deuxième corner pour les Strasbourgeois, c'est parti avec la déviation de la tête de Botman, et ça va revenir avec une frappe contrée par la poitrine de Renato Sanchez. C'est pas terminé, le ballon toujours le pied de Gilbert. Oh, la reprise et ça passe à côté. On réclame quelque chose du côté, on réclame un corner. Peut-être pas une main dans la surface, mais au moins un corner du côté Strasbourgeois. Ça sert à rien du tout.
C'était une reprise de Jairzinho Niamsi. Il faut signaler que cette équipe de Strasbourg et après Rennes l'équipe qui centre le plus en Ligue 1 et devant Rennes l'équipe qui marque le plus sur des centres, et on le voit bien depuis le début de la rencontre, on vient chercher par la droite, par la gauche avec c'est vrai de très bons pieds hein, à l'image de Thomasson ou de Liénard quand il est sur la pelouse, également de Cassier Gilbert sur les côtés, et puis de bons joueurs de fixation, de bons joueurs de tête à l'image d'Ajorc ou David Diallo qui est sur le banc aujourd'hui. 0-0 toujours entre les Lillois et les Strasbourgeois.
Très bien, allez, on revient vers vous dans quelques instants. 0-0 entre Lille et Strasbourg et 1-0 pour le Paris Saint-Germain féminin face à l'Olympique Lyonnais en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Il est 17h18 et vous êtes sur RMC. À tout de suite pour la suite de l'Intégral Foot.
RMC Intégral Foot,
Christophe Cessier.
Et avant de revenir dans un instant sur les résultats des sports méca avec la victoire de Verstappen en Formule 1 et la victoire de Fabio Quartararo en MotoGP, on va faire un nouveau détour par nos terrains de foot. Deux matchs sont au programme cet après-midi, match de Ligue 1 avec évidemment la course à l'Europe pour les Strasbourgeois qui sont en déplacement à Lille, et la course à la finale de la Ligue des Champions pour Lyon et le Paris Saint-Germain féminin opposé, les deux équipes opposées depuis 20 minutes. On commence par les filles. Ben oui, on va être galant avec toi, Edouard.
Allez, 21 minutes de jeu. Pour l'instant, ce sont les Parisiennes qui sont devant depuis la 5e. Et ce but de Marie-Antoinette Katoto.
Et donc, le foot masculin cette fois-ci. Lille-Strasbourg, on joue depuis 17 minutes. Timothée Mémon, Jean Bemel.
0-0 entre les Lillois et les Strasbourgeois. Des Strasbourgeois qui se montrent relativement dangereux à l'entrée de la surface de réparation. En tout cas, qui tentent des frappes pour le moment. Ils n'ont pas réussi à cadrer. La défense lilloise est bien en place et contre les possibilités strasbourgeoises. Ils essayent de se projeter en contre mais n'y parviennent pas pour le moment eux non plus, mais c'est un match animé, un certain rythme en tout cas dans cette rencontre.
Ouais, et il y a un rythme aussi au niveau des banderoles parce qu'on l'a changé.
Pénalty pour Lyon.
Ah. On y va.
Oui. Pénalty pour Lyon sur une énorme faute de Vodkova sur Macario, je crois. En tout cas, l'arbitre central n'a absolument pas hésité. Ça va être un coup, un pénalty. On va vérifier tout cela avec une première tentative. Ouais, elle est allée vraiment catapulter la joueuse lyonnaise. La gardienne est allée sur Melvin Mallard, pardon. Elle a tout emporté. D'abord la joueuse et ensuite le ballon, et donc la possibilité pour les Lyonnaises de revenir normalement. Mais c'est carrément Wendy Renard qui va s'y coller, parce que la dernière fois c'était Macario, l'américaine de nationalité mais de naissance brésilienne, et donc c'est Wendy Renard qui
tirer rapidement. Edouard, non?
Là elle est en place pour se positionner pour éventuellement égaliser, elle qui fait aujourd'hui son 100e match de Ligue des Champions. Wendy Renard, la capitaine de l'OL, pour peut-être remettre les deux équipes à égalité. C'est fait au ras du poteau, et donc Wendy Renard qui répond à Marie-Antoinette Katoto, et les Lyonnaises qui reviennent à la 23e.
Un partout donc entre Lyonnaises et Parisiennes. On vous garde évidemment l'écoute, messieurs, dès qu'il se passe quelque chose sur vos terrains, mais on va partir faire un tour à Imola, retrouver Jean-Luc Roy après ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Alors hier je disais Grand Prix de Saint-Marin, mais non, ce n'est plus l'appellation de ce Grand Prix qui se déroule à Imola. Avant c'était le Grand Prix de Saint-Marin, désormais c'est le Grand Prix d'Émilie-Romagne, mais Jean-Luc Roy s'appelle toujours The King, il est avec nous. Salut Jean-Luc.
Salut Chris, salut coach, bonjour à tous.
Bon, Jean-Luc, Verstappen a fait verdir de rage les ferraristes aujourd'hui, hein, les ferraristes et les supporters de la Scuderia qui attendaient un succès de Charles Leclerc. Ils n'ont vu que du Red Bull cet après-midi.
Absolument, Christophe, il a frappé fort, comme il l'avait fait hier, hein, dans d'autres circonstances, lors de la fameuse course sprint où il avait la pole, on le rappelle. Un excellent départ de Charles a donné beaucoup d'espoir aux tifosi, comme tu le disais. Ils étaient 65 000 massés tout autour sur les collines bordant le tracé d'Imola. Et puis, dans l'avant-dernier tour, Verstappen, qui avait plus ménagé ses pneus que n'avait pu le faire Charles, est parvenu à passer et à remporter la victoire. Donc, la grille de départ aujourd'hui, c'était bien Verstappen, Leclerc, le bras de fer auquel on est habitué depuis le début de la saison, avec derrière les seconds couteaux Perez et Sainz, et puis la troisième ligne toute McLaren, et puis là Verstappen a dominé de la tête et des épaules. Alors Charles a bien essayé de s'emparer de la deuxième place, et puis il a commis cette petite erreur dans la chicane haute, et ça l'a envoyé dans le mur de pneus. Il a eu de la chance, hein. Il peut terminer quand même, et il sauve les meubles, on va dire, en terminant sixième du Grand Prix.
Voilà, il sauve les meubles, il sauve sa place en tête du championnat du monde. Mais là, cette fois-ci, les Red Bull sont allés jusqu'au bout, parce qu'on avait des interrogations concernant la fiabilité des voitures Red Bull, mais aujourd'hui elles ont été vraiment impeccables avec un Verstappen impérial.
Absolument. Le mal mystérieux qui les a frappés à deux reprises, en tout cas pour Verstappen, qui avait deux abandons et une victoire à son compteur, maintenant c'est simple, deux abandons, deux victoires, c'est quand même mieux. Et au championnat, il fait une très belle opération, puisqu'il était extrêmement attardé. Là, il remonte avec 59 points, il remonte au deuxième rang. Alors Charles Leclerc caracole toujours en tête avec 86. Mais bon, il a lâché 7 points, là, on peut dire un peu bêtement, mais bon, c'est ça le pilotage, hein. Il a commis une petite erreur, il a payé l'addition, encore une fois, une demi-addition. Et puis derrière, il y a un pilote qui fait un très beau boulot, c'est Sergio Perez qui est troisième avec 54 points, qui a bien couvert son leader. Puis on n'oubliera pas George Russell, hein, je ne sais pas si on va avoir le temps d'en parler.
Ah oui, Russell,
le jeune britannique.
Le jeune Russell qui donne la leçon au maître Lewis. Maître Lewis qui n'y est pas du tout. Hamilton, c'est une catastrophe depuis le début de la saison. Là.
Ah, il est totalement en perdition. Écoute, je suis désolé d'y revenir à chaque fois, mais j'ai l'impression que le petit jeu un peu psychologique auquel il a joué pendant l'hiver en disant « Oh, si c'est comme ça, je reviens pas. » Bon, il a obtenu la tête de Michael Messi. C'est ce qu'il voulait, hein, le directeur de course qui, selon lui, avait mal agi la saison dernière. Mais avec ce jeu-là, il n'est pas revenu motivé. On le reconnaît pas, c'est simple. Hamilton, il était dans les roues de Gasly. Là, il y avait un petit train devant lui, même pas tenté une seule véritable attaque. Alors je sais bien que la piste était piégeuse, il y avait que la trajectoire qui était sèche et tout, mais Hamilton, on l'a connu l'an dernier encore, faire des remontées au Brésil, rappelle-toi, hein, dans la course sprint où il fait une remontée canon. Là c'est plus lui, c'est plus lui.
Il s'est fait prendre un tour par Verstappen, l'humiliation quand même, hein, pour Lewis, qui termine 13e alors qu'il était parti 14e. C'est un peu inquiétant. On se demande ce qui va se passer pour lui. On ne sait pas si c'est vraiment la voiture, parce qu'on voit que Russell lui termine 4e, donc c'est qu'elle est quand même performante, cette Mercedes, Jean-Luc.
Et c'est exactement ça. Tu sais, le principal adversaire d'un pilote, c'est toujours son équipier. Alors, on savait que Russell était vraiment une star à venir. Hein. On l'avait vu, je rappelle aussi, dès le premier Grand Prix auquel il avait participé, donc l'avant-dernier de la saison 2020, à la place d'Hamilton qui était touché par le Covid. Bah, il aurait dû le gagner, ce Grand Prix, si Mercedes, encore une fois, à mon avis, plutôt volontairement, s'était pas pris deux fois les pieds dans le tapis. Il gagnait son premier Grand Prix pour Mercedes, carrément, devant Bottas. Bon, bah, on ne lui a pas permis de le faire chez Mercedes. Bah, maintenant, on voit le talent de Russell, il est là et là ça va être dur à avaler pour Hamilton, ça continue comme ça hein, parce que même au championnat il y a vraiment une différence de traitement. Il y a 49 points pour Russell pour le moment, alors qu'Hamilton plafonne péniblement à 28. Et puis je veux dire, au vu de ce naufrage, j'espère qu'on va retrouver le vrai Hamilton lors du Grand Prix de Miami, qui est le prochain à venir là, dans moins de deux semaines maintenant.
Très bien, eh ben, on sera avec toi. Oh, Miami en plus, t'es à la maison là pour ce Grand Prix hein, des États-Unis. C'est le Grand Prix des États-Unis parce qu'on sait qu'il y en aura deux cette année hein, aux États-Unis de Grand Prix.
Absolument, et puis on en prépare un même à Las Vegas en 2023.
Oh, là.
Qui va être nocturne le samedi, là ça va être du délire. Mais bon, bah, c'est bien qu'il y ait évidemment deux Grands Prix aux États-Unis. C'était un objectif important pour les gens qui ont pour la FOM. Et bon, bah voilà, ils ont réussi. Après, pas mal de péripéties, hein, parce qu'au départ, ça devait se faire en ville, tu sais. Et puis, il y avait les riverains qui ont protesté, à mon avis, un peu à juste titre. Quand on voit le bazar que ça met à Monaco, ils n'avaient pas envie d'avoir la même chose, tu vois. Donc là, on a trouvé un moyen terme et ça va être tracé sur le parking du stadium. Mais il devrait être beau ce tracé. Honnêtement, il fait plus de 5 km. Je pense qu'on peut avoir une belle bagarre et puis je pense qu'il va faire un peu chaud aussi.
Ah bah oui, c'est ça le problème de la Floride. Merci Jean-Luc, on te retrouve évidemment dans 15 jours, donc aux victoires de Verstappen aujourd'hui devant son coéquipier Perez. Norris sur McLaren se classe 3e et donc Charles Leclerc n'est que 6e, il conserve la tête du championnat du monde des pilotes de Formule 1. On repart au foot avant de parler de moto dans quelques minutes. Le foot, c'est évidemment ce match de Ligue 1 entre Lille et Strasbourg. On approche de la demi-heure de jeu. Jean Bemel, Timothée Mémon.
Sale semaine hein, pour Charles Leclerc. Il s'était fait voler sa montre. Je ne sais pas si vous avez vu ça. 300 000 euros le bijou.
Ah,
bah oui. Reçoit beaucoup là. 0-1-0 avec un bon coup là pour les Lillois. Avec Burak Yılmaz. Burak Yılmaz qui a peut-être pouvoir s'entrer en retrait.
Oh,
Timothy Weah, le retour défensif d'Alexander Djikou. Il n'était pas signé dans la position de hors-jeu. En revanche,
juste avant,
il s'est fait très mal.
Ah, c'est incroyable. Je pensais qu'il allait la tenter seul. Bon, l'angle était, c'est vrai, un peu fermé, mais en tout cas Lille est pas mal hein, globalement sur les 25 premières minutes de cette rencontre, parce que on retrouve le Lille dominateur. Mais offensivement, bon, c'est toujours un petit peu moyen de la part des joueurs de Jocelyn Gourvennec, mais là il y avait mieux à faire en tout cas. Ouais, c'est vrai que pour la position de hors-jeu, pour moi il l'est, mais l'arbitre ne dit rien. Ah, le centre en retrait, je comprends, mais c'était bien vu, mais il y avait un peu de monde quoi. Donc bon, en tout cas le ballon revient au Strasbourgeois et je pense qu'on va même revenir à la position de hors-jeu.
Exactement, coach, voilà, bien
finalement,
vu.
Ouais, s'il a été signalé finalement en position de hors-jeu, ce sera donc un ballon donné à Lucas Perrin dans un match, on l'a dit, pour le moment sans énorme occasion, mais plutôt enlevé. On trouve des Lillois assez conquérants dans cette rencontre. En tout cas, dans les duels, il y a beaucoup d'engagement de part et d'autre et un arbitrage plutôt bon de la part de Monsieur Pignard qui laisse les deux équipes jouer, à l'image là de ce duel entre Renato Sanchez et Gilbert. Ballon en retrait pour Lucas Perrin, voilà, qui va subir la faute de Burak Yılmaz, une faute d'agacement de la part du Turc. Apparemment il n'a pas l'air d'apprécier les positions de hors-jeu qu'on lui siffle, Burak Yılmaz, mais on a des images, donc c'est bien vrai, elles sont bien là, ces positions de hors-jeu. C'est 3 hein, quand même depuis le coup d'envoi, et là il commet une faute pas loin de la ligne médiane, donc pour l'instant pas de but. C'est assez logique hein, score de parité 0-0, 26 minutes de jeu entre Lille et Strasbourg.
Ok, le foot féminin, demi-finale allée de la Ligue des Champions. Les Parisiennes avaient frappé les premières dans ce match face à Lyon. Les Lyonnaises ont donc répliqué avec un pénalty de Wendy Renard, Edouard.
Exactement, le premier but 5e pour les Parisiennes de Mac, Marie-Antoinette Katoto, et l'égalisation de la capitaine pour ses honneurs aujourd'hui. Elle a reçu un petit trophée d'ailleurs de la part de Jean-Michel Aulas avant le coup d'envoi, parce qu'elle fait son 5e match.
Il est bien là Jean-Michel, parce qu'hier il a dit qu'il allait peut-être arrêter, donc il est toujours là.
Non, pour aujourd'hui il est toujours là.
D'accord.
Ouais.
Jusqu'à Il y a nouvel ordre.
Qu'est-ce qu'il y en a des ordres aujourd'hui?
Allez, 31 minutes de jeu, donc un partout. Et il y avait eu beaucoup d'intensité dans la première demi-heure.
Là, la frappe de Bouac, ça passe juste à côté du poteau droit de Matsels. C'est long cadré.
Ouais, il a manqué de collectif, là, Bouac Ilmaz, parce que ce ballon avait été intelligemment récupéré par Renato Sanchez, qui l'a glissé à Bouac et qui a offert une solution sur la gauche.
Quoi, cette année.
Il y avait également la possibilité Zegrova sur le côté droit. Finalement, il a choisi d'y aller tout seul de loin. C'est vrai que l'année dernière, à même distance, à ce moment de la saison, ça rentrait, ça faisait filoche et ça faisait champion. Là, c'est nettement
moins. Il touchait même la petite araignée.
Non, d'accord, c'est pas tout à fait ça ce que je voulais dire. C'est que quand je dis il fait n'importe quoi, c'est que, ok, il frappe, ça ne va plus dans les lucarnes comme la saison dernière. Mais là, c'est mal joué.
Il y a bien sûr, t'as raison, coach.
Attention avec les Strasbourgeois, ce ballon pour Thomasson. Le centre pour Ajorc qui n'a pas pu remettre cette balle, ni Kevin Gamiro dans un second temps. Ballon récupéré très haut par les Strasbourgeois avec Gilbert. La petite talonnade de Gilbert, le centre de Thomasson. Avec une nouvelle possibilité, Zeki Sélik qui intelligemment s'efface pour laisser ce ballon sortir de l'autre côté du terrain. Heureusement, il n'y avait personne derrière lui. Il a bien senti le coup, il a bien pris l'information. 28e minute de jeu, 0-0 dans un match qui s'emballe un petit peu.
Ok, Edouard, on t'a coupé la parole. Le jeu, la physionomie de ce match, domination des Lyonnaises, non?
Ouais, c'est assez équilibré. L'entame était totalement lyonnaise. Il y a eu ce but parisien. Et derrière, les Lyonnaises ont fort logiquement égalisé sur ce pénalty. Beaucoup d'intensité donc sur la première demi-heure. Mais maintenant, ça s'est un petit peu calmé depuis 3 minutes, puisque nous en sommes à la 33e. Donc, un partout, Katoto et Renard. La première est parisienne, la deuxième lyonnaise. Donc, pour le scénario de cette entame de match, attention, le loupé complet de dégagement du côté des Parisiennes et le but signé Melvin Malard. Non, c'est Macario qui va là-bas récupérer ce mauvais dégagement de Vodkova qui a complètement donné ce ballon alors qu'elle voulait le donner à l'une de ses arrières. Et bien elle l'a donné à une Lyonnaise qui a transmis derrière à Macario et qui va marquer donc un nouveau but cette année avec cette équipe de l'OL, elle qui est la meilleure buteuse en Ligue 1 de première division et surtout aussi en Ligue des Champions pour l'OL, et bien voilà, qui donne l'avantage l'américaine Macario qui donc désormais permet aux Lyonnaises de mener 2-0, mais merci à la passe décisive de Vodkova qui a donné à Adaï Gerberg et derrière Adaï Gerberg a servi Macario et directement là elle a fixé la gardienne et du gauche sous le poitrail et lui met donc le deuxième but. Ça fait 2-1, donc les Lyonnaises ont totalement inversé tendance.
Elles ont été très rapidement menées dans ce match avec une ouverture du score très précoce de la part des Parisiennes, et les Parisiennes ont trouvé du répondant cet après-midi coach avec cette belle équipe lyonnaise s'est pas énervée après cette ouverture du score.
Ça va faire deux bons matchs, celui-là il n'est pas terminé et il est déjà assez beau, et le match retour, je te dis pas.
Ouais, le match retour, c'est quand le match retour, Edouard?
Samedi prochain, à 21h au Parc des Princes.
Ok, allez, 17h35, 2-1 pour Lyon, donc dans ce match aller de la Ligue des Champions, demi-finale, 0-0, toujours entre Lille et Strasbourg, après une demi-heure de jeu. Il est 17h35, on revient dans un instant sur RMC, coach. Ça va, tu voulais dire un truc?
Non, je voulais dire un truc, je pense que les supporters du Paris Saint-Germain vont s'occuper maintenant de ce qui se passe dans leur club dans le football féminin. Ah, je ne serais pas étonné qu'il y ait...
Tu crois qu'ils peuvent quitter le terrain à la 70e aujourd'hui là,
je pense tribunes. Qu'ils vont faire le maximum pour encourager cette équipe féminine qui est quand même très intéressante à voir jouer.
D'accord. Eh bien, nous verrons ça. 17h36.
Je mise sur un record de spectateurs.
Un record de spectateurs. Il y en avait combien tout à l'heure, Edouard? Une quinzaine, c'est ça?
18, là,
18,
ouais.
18, très bien. Ouais.
Okay, on va avoir près de 27 000 la semaine prochaine.
Ah, la semaine prochaine, au parc, ça va être énorme.
Ouais, je pense plus que ça.
Allez, on revient dans un instant.
RMC, Intégral Foot.
Christophe Cessieux.
L'Intégral Foot, cet après-midi, vous savez qu'à partir de 19h, émission spéciale présidentielle sur RMC, sur BFM Télé, et puis retour du foot à partir de 21h, 20h45 très exactement, pour le match qui opposera tout à l'heure Reims à Marseille. On en parlera tout à l'heure avec nos envoyés spéciaux. 17h38, un nouveau détour donc par nos deux matchs de foot qui se déroulent actuellement. Match de Ligue 1 tout d'abord entre Lille et Strasbourg. Rien n'a encore été marqué. Roland, tu me disais en antenne que cette équipe strasbourgeoise vraiment te faisait une belle impression. Ouais, et depuis un moment maintenant.
Je la trouve bien gérée par Julien Stéphane. Je la trouve bien équilibrée. Il n'y a pas un secteur où ça ne va pas. Donc c'est, sincèrement, je vois, en plus elle est solide, elle a un très bon gardien, donc je ne suis pas étonné finalement qu'elle soit bien classée comme ça.
Voilà, Lille-Strasbourg, toujours 0-0, messieurs.
On confirme, 0-0, et puis des banderoles qui se sont succédées. Tout à l'heure, il y en avait une, c'était des grandes heures au déshonneur, cassez-vous. Voilà, bon, ils font toujours grève, hein, ils chantent pas en deuxième mi-temps, ça va être un peu plus gai au stade Pierre-Mauroy. Mais dans le jeu, quand même, Tim, c'est Lille quand même qui est plutôt pas mal cet après-midi.
Hein. Oui, Lille est bien dans l'agressivité, ce qui avait manqué un petit peu ces dernières semaines aux Lillois. On sentait de la fatigue des uns des autres. Là, justement, en parlant d'agressivité, celle-ci est légèrement déplacée. Celle de Gudmundsen qui est allé se jeter dans les pieds de Gilbert. Gilbert qui restait au sol et qui va prendre un carton jaune, Gudmundsen. Le premier de cette rencontre pour le Suédois. En tout cas, il y a de bonnes choses dans l'envie et on sent cette équipe qui aurait pu se démobiliser parce que l'Europe s'éloigne petit à petit, et bien qui reste concentrée.
Bah après, il y a des joueurs qui doivent aussi se montrer parce qu'il y en a qui sont en fin de contrat, il y en a qui vont partir, qui aimeraient trouver un meilleur club. Hein. Bon, Renato Sanchez, normalement, au Milan AC, ainsi que Botman, c'est en bonne voie.
Il va rester qui dans cette équipe lilloise,
je pense que tu peux renouveler 50%.
Ouais. Ouais.
Ah ouais, non, il y aura beaucoup de départs. Ouais, en fait, cet été, il n'y en avait pas eu tant que cela, mais ce qui a fait mal aussi. Notamment Mike Maignan, hein, c'est pas plus anodin.
Et
l'entraîneur. Et puis, tu as aussi Renildo qui est parti et qu'on voit qui est titulaire. Attention, avec les Strasbourgeois, le centre au deuxième poteau pour un joueur qui est la parade de Léo Jardim. Superbe centre de la part d'Adrien Thomasson, côté droit. Et le ballon qui était en position de hors-jeu, apparemment, encore une fois. Bon, en tout cas, le ballon revient en faveur des Lillois. On pensait qu'il allait avoir corner pour les Strasbourgeois et ça repart dans le jeu.
Depuis ces 35 minutes, on est bien d'accord. C'est quand même Strasbourg qui domine ce match.
C'est pas flagrant.
C'est pas flagrant. Il y a eu des incursions dans la surface de réparation, mais voilà.
En possession, Lille a plus le ballon, je trouve.
La parade de Léo Jardim est une des premières véritables parades de gardien qu'on a vu dans cette rencontre. Et pour te donner la possession, coach, 50-50.
Ah ben voilà. Non, comme on dit que c'est équilibré. Après, chacun.
On a penché plus vers Lille et coach vers Strasbourg.
On est d'accord maintenant. 4 tirs pour le LOSC, 4 tirs pour les Strasbourgeois.
Ok.
Ah ben, ce qui se passe à Strasbourg, ouais, c'est quand même très, très intéressant.
Ah ouais, mais on rappelle.
Lille, qu'est-ce que tu veux, que ça intéresse qui? T'es champion de France, tu t'affaiblis.
Bah oui.
11 matchs sans défaite hein, quand même pour les Strasbourgeois qui n'ont plus été vaincus depuis la mi-janvier. Allez, 17h42, on repart pour le Groupama Stadium. Beau soleil en cette fin d'après-midi sur Lyon et beau soleil également sur l'Olympique Lyonnais féminin.
Oui, avec peut-être un nouveau cadeau, toujours 2-1 pour les Lyonnaises avec ce long ballon. Non, finalement, ce centre n'arrivera pas de Delphine Cascarino, trop profond, mais il y a encore eu une mauvaise relance qui a offert un ballon à Lycée Oran pour derrière Ada Engerberg, mais finalement voilà, les Parisiennes pour l'instant qui menaient donc dès la cinquième minute avec ce but de Katoto, un peu contre le cours du jeu sur l'entame des premières minutes. Et ben ça n'a pas forcément endormi les Lyonnaises qui se sont réveillées petit à petit. Un pénalty de Wendy Renard à la 23e et Katarina Macario qui a profité d'une énorme bourde de Vodkova, Barbara Vodkova là, qui a manqué son dégagement directement dans les pieds d'Ada Gerberg, et Ada Gerberg a servi en passe lumineuse son attaquante pour son 6e but en 9 matchs de Ligue des Champions. Donc 2-1 pour les Lyonnaises à 3 minutes à la 42e minute, mon cher Timothée Mémon.
Merci les gars, on repart sur les circuits automobiles et moto avec le Grand Prix donc du Portugal. Alors tout à l'heure on parlait de Formule 1, ça n'a pas été une après-midi brillante pour les Français et les francophones. En revanche, à Portimao, ben là, la Marseillaise, on a fait péter une double Marseillaise pour Quartararo et Zarco qui ont tout simplement réalisé le doublé. Roland, t'as regardé ça ou non?
Non, mais j'ai été au courant.
Ah, t'es doublé,
je m'imaginais pas un seul instant que Quartararo allait gagner aujourd'hui.
Là, c'est un circuit pour pilotes. Là, la moto compte moins que lorsqu'il y a des grandes lignes droites et où les Ducati peuvent donner toute leur puissance. Là, c'est un vrai circuit pour les pilotes. Il y a pilote, eh ben, il y a un Niçois qui gagne. Ouais. C'est normal. Fabio Quartararo.
Il n'a pas la moto de la marque d'Hamilton.
Non.
D'accord.
Pas Lafitte.
Salut Christophe,
j'ai
salut
tout
coach.
Bon polo, non, là, dans ce que j'ai dit.
Bonsoir à toutes et à tous. Ouais, c'est ça. Lorsque les circuits sont plus sinueux, le meilleur pilote du plateau, bien, c'est le champion du monde en titre, le niçois Fabio Quartararo, qui avait déjà montré le bout de sa moto hier en qualification. Christophe, il avait flirté avec la pole position, mais finalement, un drapeau jaune avait permis justement à Juan Zarco de glaner, bien, la pole position, la septième de sa carrière. Et on voyait bien le pilote Ducati Pramac aujourd'hui, aller chercher la première victoire de sa carrière en catégorie reine. Mais face à Fabio, eh bien, personne ne pouvait suivre le rythme du niçois, avec un départ qui avait vu l'Espagnol, l'ancien champion du monde Joan Mir, eh bien, réaliser le all shot, c'est-à-dire au bout de la ligne droite, eh bien, prendre la première position devant Fabio Quartararo. Il a fallu deux tours au pilote Yamaha pour étudier les trajectoires de son principal rival, et au troisième tour il a déposé dans la ligne droite l'Espagnol pour s'en aller faire un véritable cavalier seul. Christophe, à l'arrivée, Fabio Quartararo comptait quasiment 6 secondes d'avance sur Juan Zarco. On n'avait plus vu ça depuis la domination de Marc Marquez, hein, le champion du monde espagnol. C'est vous dire, sur un circuit vallonné comme celui de Portimao, il s'est régalé cet après-midi. Fabio Quartararo largement en tête, donc devant l'ensemble du plateau MotoGP.
Voilà, et avec cette victoire, il prend la tête du championnat du monde des pilotes, alors qu'on a l'impression qu'il était à la rue, mais pas du tout. Il était quand même réussi à marquer des points sur les précédents.
Oui, Christophe, alors seulement 4 courses de disputées avant le Grand Prix du Portugal cet après-midi, et Fabio n'avait que 17 points de retard sur l'ancien leader Enea Bastianini. Et effectivement, avec cette victoire, la chute de Bastianini, la chute également de Jack Miller et de Joan Mir, eh bien, il prend les commandes à égalité de points avec Alex Rins, le pilote Suzuki, et 3 points devant Aleix Espargaró. Et puis la très très bonne opération également pour Juan Zarco, hein, qui avec cette deuxième place remonte dans le top 5 avec un total de 51 points. Et lorsqu'on l'on regarde le calendrier à venir, il y aura le circuit de Jerez de la Frontera, ce sera dimanche prochain, et surtout sur le Bugatti, ce sera le 15 mai prochain, on y sera, Christophe.
Exactement,
évidemment.
Exactement, puisqu'il y a une délocalisation prévue, il y aura les grandes gueules du sport et on vivra le Grand Prix ensemble.
Et ce seront deux circuits favorables, encore une fois, à la Yamaha de Fabio Quartararo. Donc on peut penser que l'actuel leader donc du championnat et le champion du monde en titre pourrait peut-être faire une différence sur ces Grands Prix européens.
Et une nouvelle fois, bon, Zarco est là, mais une nouvelle fois, son exploit est un peu mis sous l'été noir par la victoire de Quartararo. C'est difficile pour Johan, hein, parce qu'il avait réussi la pole. On aurait bien aimé, enfin il aurait bien aimé que la lumière vienne entièrement sur lui, mais les deuxièmes.
Attention, l'occasion pour Lillois avec le Sanchez, c'est à côté, il fallait laisser Zegrova qui était mieux placé. Ouais, le public qui siffle parce que c'était une vraie opportunité, le bon centre d'ailleurs, faut le souligner, team de la part de Burak Yılmaz, mais quelle occasion ratée pour les Lillois.
Oui, Burak, que on le disait, hein, qu'on trouve plutôt bon depuis le début de cette rencontre, remuant. Là, il est disponible à la limite du hors-jeu. Ça n'a pas été en tout cas signalé. Ça aurait été potentiellement checké à la VAR si but il y avait eu. En tout cas, il n'y a pas eu de but. On a mis ce ballon à côté. Et on en reste après 42 minutes de jeu. Edouard G à 0-0.
Ah, ça s'amuse entre le 42 et 69 là.
Hein. Et t'avais pas compris l'année.
Oui, là, mais tu t'en fais gaffe tout à l'heure. Et là, ça y est, tu vois.
Il n'y a que le 0-6 qui t'intéresse.
Faut insister un peu, tu sais, je commence à être vieux.
Oh, la tête d'Arjor, quand elle passe au-dessus sur ce centre déposé par Gilbert. Centre au cordeau, il s'est jeté, la tête plongeante de Ludovic Ajor qui va mettre ce ballon au-dessus. Mais c'était très bien joué, le bon déplacement de l'attaquant strasbourgeois. On en reste encore une fois à 0-0. On assiste à un bon match de football sans très très grosse occasion, en tout cas sans tir cadré.
Ouais, mais c'est vrai que c'est un bon match pour l'instant. 0-0 est toujours de buts à 1 pour lui. On y revient dans quelques instants, puisqu'on est entré dans le temps additionnel. On va conclure avec toi, Paul.
Donc, tu le disais, Juan Zarco qui a déclaré à la fin du Grand Prix, Fabio était tout simplement aujourd'hui intouchable. Il tournait entre 3 et 4 dixièmes au tour plus vite que l'ensemble de la concurrence. C'est vous dire aujourd'hui.
Ça veut dire que sa moto a quand même fait des progrès, ou c'est uniquement les talents du pilote là?
Non, Christophe. Alors Jean-Luc Roy en parle souvent lorsqu'il évoque Lewis Hamilton qui galère cette saison au volant de sa nouvelle Mercedes. Les ingénieurs de chez Yamaha travaillent d'arrache-pied pour combler justement ce déficit de puissance. Ils sont en train de le combler petit à petit. On l'avait vu au Grand Prix des Amériques, mais sur un circuit aussi vallonné qu'à Portimao, Fabio s'est régalé. Et donc cette victoire, la 9e de sa carrière et le 2e doublé français, puisque l'année dernière au Qatar, il y avait déjà eu un doublé français avec le même ordre, 1 Quartararo, 2 Juan Zarco.
Merci monsieur Lafitte, vous avez été parfait comme les Français aujourd'hui sur le circuit de Portimao. Donc victoire de Quartararo devant Juan Zarco. Quartararo en tête du championnat du monde des pilotes MotoGP. 17h48, Edouard, les dernières secondes dans cette première mi-temps entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Allez, chez les filles.
17 secondes, c'est le temps qui reste dans le temps additionnel. Donc les Lyonnaises qui sont devant, Wendy Renard sur pénalty à la 23e, Katharina Macario à la 34e minute, qui a profité d'une offrande de, notamment de la gardienne Barbara Vitkova, la gardienne parisienne. Donc cette mauvaise relance, et les Lyonnaises donc qui ont totalement inversé la tendance qui était contraire d'entrée à la 5e minute avec le but de Marie-Antoinette Katoto. Et c'est à l'instant que la mi-temps est sifflée. Donc sur cet avantage pour les Lyonnaises dans leur 12e demi-finale de Ligue des Champions, elles qui ont été déjà 9 fois finalistes pour 7 trophées. Eh bien, pour l'instant, à la mi-temps, elles mènent 2-1.
Eh bien, merci Edouard. À tout à l'heure pour la deuxième période donc, de ce match entre les Parisiennes et les Lyonnaises. Les dernières secondes également de la première mi-temps entre Lille et Strasbourg. Timothée Mémon, Jean Baumel.
0-0 après 44 minutes de jeu et 38 secondes très précisément, et un corner à venir en faveur des Lillois.
Ouais, c'est le troisième corner de cette première période avec Zegrova pour le tirer, son pied gauche pour le recevoir au premier poteau, c'est dégagé de la tête par Ajorque, mais ça va peut-être revenir avec une remise de la tête de la part de Wea, succession de tête, le ballon qui est posé au sol et qui sera récupéré par les Lillois. Je sais pas s'il y aura du temps additionnel, il y a 3 secondes et j'ai pas l'impression que peut-être l'arbitre, voilà, siffle la fin de cette première période. Voilà, avec des encouragements des supporters lillois au retour au vestiaire. C'est sympa, je crois.
Qui supporte leur équipe, j'en peux plus.
Il y a un an, t'étais champion quand même. C'est...
Ouais.
Ça va vite, hein.
Eh oui, ça va vite. La roue tourne très vite.
Ouais, oui.
Ok, les gars, on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième mi-temps. Roland, petite analyse de cette première période, rapidement.
Moi, j'ai vu Strasbourg légèrement supérieur à Lille. Vous non, mais je maintiens que cette équipe de Strasbourg est capable de gagner ce match-là. D'ailleurs, elle va tout faire pour.
Ok, on va parier tout de suite sur la deuxième mi-temps.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Yann Guillet qui revient avec les mêmes stats, ou quasiment. Hein. T'as pas beaucoup bossé pendant ces 45 premières minutes.
À peu près les mêmes cotes. Hein. Mais ça s'est quand même un peu déséquilibré. Lille est à 2,95, maintenant 3,40. Strasbourg, 2,20 le nul. Et bien écoutez, je vais suivre plutôt le coach. Et je vous propose moi de miser sur la victoire de Strasbourg, cote sèche, côté à 3,40.
Roland. Ben écoute, je te suis.
On est d'accord.
Avec une ticket de couverture, Strasbourg qui ne perd pas.
Le Strasbourg qui ne perd pas, je te donne tout de suite, il est à 1,34. Pas énorme.
Bah écoute, c'est mieux que rien.
Merci Johan, à tout à l'heure.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
17h51, avant de repartir au foot et avant les infos de 18h, on vous donnera les dernières tendances des estimations de la présidentielle. Nous allons parler de vélo avec un duo qui nous régale toujours. J'ai nommé Cyril Guimard et Arnaud Souk. Bonsoir messieurs, comment ça va?
Salut à toutes et à tous, ça va très bien.
Monsieur Le Druide.
Eh bien, monsieur Christophe, ça va très bien. Heureux de vous entendre.
Eh ben oui, moi aussi. Avant de parler, de débriefer en longueur demain dans Grand Plateau, ce Liège-Bastogne-Liège qui a donc été remporté par celui qu'on annonce comme la petite merveille du cyclisme international depuis des années. Eh bien, qu'il a pour sa première participation, Arnaud, à la doyenne des classiques. Eh bien, tout simplement mis au fond tout à l'heure, une victoire incroyable de Remco Evenepoel.
Ouais, il a mis au fond sur cette course, voilà, hein, qui clairement il annonce sa course préférée, tout simplement, ce Liège-Bastogne-Liège. Il y a quand même voilà des choses, des moments qui restent gravés. Je pense que cette victoire aujourd'hui de Remco Evenepoel sur Liège-Bastogne-Liège va rester dans l'histoire. Je vais vous donner quand même une statistique qui est absolument incroyable. Il gagne aujourd'hui à 22 ans et 29 jours. C'est le plus jeune vainqueur d'un monument depuis Jean-Pierre Montséré en 1969. Il faut quand même se rendre compte de la performance, sachant que ce garçon, il y a 5 ans, jouait encore au football. Voilà, c'est juste incroyable ce qu'a fait Remco Evenepoel aujourd'hui. Et ne croyez pas qu'il a eu sa carte parce que Julien Alaphilippe a eu des déboires. Lui, on en reparlera sans doute. Il a eu sa carte, c'était prévu aussi. Et voilà, cette victoire ne doit rien au hasard.
Ouais. Cyril, ça fait des années qu'on l'attendait. Il y a eu cette chute dramatique dans le Tour de Lombardie qui a freiné un peu l'avancée spectaculaire de Remco, mais là il arrive à point, quoi. On sent qu'il est prêt pour décrocher, pour se fabriquer un sacré palmarès.
Oui, il a 22 ans, il a été presque un an sans courir, puisque tu l'évoquais, sa chute dans le Tour de Lombardie où il est passé au-dessus du parapet pour atterrir une dizaine de mètres plus bas. Ensuite, il a eu une très longue récupération, tout ce qu'il fallait parce qu'il pouvait plus marcher. Enfin bref, et puis il a repris depuis. Depuis le Giro l'an dernier, ce qui était à mon avis d'ailleurs une erreur, c'était un peu trop tôt. Et puis depuis, eh bien, on ne sentait plus le Remco d'avant cette chute. Et même ce début de saison a été un peu difficile pour lui, même s'il a obtenu des résultats, s'il a gagné quelques courses, mais c'était pas celui d'avant la chute. Et aujourd'hui, quand il est sorti à 30 km de l'arrivée, au sommet de la côte de la Redoute, il ne s'est pas posé de questions. Et là, on avait retrouvé le Evenepoel. Et là, je crois que c'est le déclic pour lui. Mm-hmm. Il a un déficit de palmarès à 22 ans, puisque, je le dis, un an sans courir. Avant sa chute, il avait tout gagné. Donc, il est revenu à son meilleur niveau aujourd'hui. Et je pense qu'il redevient ce qui n'était pas le qu'on ne pensait pas il y a un mois encore. Ouais. Il est redevenu peut-être le vrai concurrent d'un Pogacar sur un Tour de France.
Ah ben voilà une bonne nouvelle, Cyril.
Mais je vous l'ai toujours dit, qu'il reviendrait.
On va attendre le Tour de France quand même.
Ouais. En tout cas, c'est on va parler rapidement de Julien Alaphilippe, mais c'est peut-être pas une bonne nouvelle non plus pour Julien, qui non seulement a chuté, s'est blessé aujourd'hui, mais voir dans la même équipe que lui ce garçon qui a priori aujourd'hui devait être son lieutenant, eh bien s'imposer pour sa première doyenne. Voilà, c'est pas une très bonne nouvelle pour Julien. Des nouvelles d'ailleurs du champion du monde, Arnaud, est-ce que tu en as? On rappelle qu'il a été sacrément touché tout à l'heure dans une chute collective à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée.
Ouais, il a été touché assez durement. On n'a pas eu de nouvelles, en fait. On n'a pas d'image de sa chute à proprement dit. On n'a pas eu de nouvelles de lui pendant un petit moment, jusqu'au moment où donc sa compagne Marion Rousse a annoncé sur France Télévisions que il avait chuté, qu'il avait été transporté avec des grosses douleurs au dos, aux omoplates et aux côtes, notamment à l'hôpital à bord d'une ambulance. A priori, ça serait pas aussi grave que les images pouvaient laisser le penser. Mais si on a le temps, je te propose qu'on écoute Romain Bardet, qui a sacrifié un petit peu sa course. Lui aussi a été pris dans la chute et il a préféré ne pas repartir et aller voir comment allait Julien Alaphilippe. On écoute Romain Bardet.
J'ai eu très peur pour Julien. Je tombais de son côté avec lui. Je l'ai vu 3 mètres en contrebas et il me dit je peux pas bouger. Et personne n'est arrivé. Ça a duré une éternité. J'avais vraiment peur. Je ne pouvais plus bouger. Et c'était vraiment des scènes qu'on ne veut pas voir en vélo. Je ne veux surtout pas le tuer dans ces cas-là. J'ai essayé d'appeler du monde, mais les voitures étaient bloquées. Ça a mis une éternité. C'est peut-être que 4-5 minutes, mais j'ai cru que oui. C'était vraiment choquant comme scène. Ça m'a vraiment. Je fais pas du vélo pour vivre des. Voilà, il y avait des mecs partout par terre. C'était plus une course, là. Je suis encore sur l'émotion, excusez-moi, parce que c'était vraiment.
Sous l'émotion, effectivement, Romain Bardet, je peux te dire qu'il avait les larmes aux yeux, hein, très ouais. Clairement, et on l'a laissé filer. On était avec un confrère de Radio France, on l'a laissé filer parce que vraiment, voilà, il était pas en état. Signe quand même que cette chute était traumatisante sur les images et a dû être extrêmement traumatisante quand on l'a vécu de l'intérieur.
Ouais, on espère, Cyril, qu'il va se remettre. A priori, il y a pas de souci, il peut bouger les jambes et les bras, mais c'est vrai que pendant quelques minutes, ça a été la très grosse inquiétude. Hein.
Oui, d'ailleurs, on n'a pas su tout de suite qu'il était dans la chute parce que on a regardé d'autres
minutes.
On a vu Madouas, on en a vu d'autres qui étaient également pris dans la chute directement, soit contraint de mettre pied à terre et de passer au travers des coureurs comme Valverde entre autres, et d'autres favoris parce que la chute est arrivée en deuxième ligne ou en troisième ligne, donc ça faisait beaucoup de monde par terre. Et on a aperçu, on s'est d'abord posé la question de savoir. On ne voyait plus Alaphilippe devant. Et puis, on avait vu à un moment, effectivement, Romain Bardet faire des signes aux voitures. Bon, on en sait plus maintenant et Arnaud vient de nous le confirmer. Vous savez, des chutes qui arrivent en descente à cette vitesse-là, avec un peloton compact, ça fait toujours beaucoup de débats. Et Romain Bardet était, et c'est tout à fait logique, il était un peu traumatisé, enfin un peu, voire beaucoup.
Ouais, on a entendu vraiment beaucoup d'émotions.
et que dans ces conditions-là, il est difficile de repartir. En plus, quand il s'agit d'un copain, quoi.
Très bien. Mais si on en reparle demain, plus en longueur, évidemment, dans notre podcast Grand Plateau, qui sera consacré donc au succès de Venopoul à la chute de Alaphilippe et au retour de Thibaut Pinot. Merci les garçons. 17h58 dans un instant les infos. À bientôt.
RMC Intégral Foot.